Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! On le décrit généralement comme le mal du siècle, même s'il n'est pas toujours mauvais. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, le stress.
Moi, j'ai beaucoup exprimé combien à la maison, j'arrivais vraiment pas à me détendre. Et puis que nous autres, on avait de la difficulté à se retrouver aussi avec les enfants, tout ça. J'avais été voir le médecin l'an dernier parce que j'avais une bosse dans le cou. Quand j'en ai parlé au médecin, il dit « c'est pas une bosse, c'est juste du stress. C'est de la nervosité puis c'est tous les nerfs qui sont contractés. » Ben, je dis « je suis rendue loin, c'est grave, une bosse qui me pousse parce que je suis stressée. »
Un témoignage à l'émission Télémag, c'était le 9 décembre 1980. De nos jours, on estime que 2 travailleurs sur 3 en souffrent. Le syndrome d'adaptation qui s'observe devant un stress est souvent le même. Alarme, résistance et épuisement. Une conséquence qui a un coût, des milliards de dollars chaque année au Canada. Un phénomène largement étudié qui trouve ses origines chez nous, entre autres, et qu'on a d'abord décrit comme le syndrome de l'air malade.
Le syndrome d'adaptation est une réaction biologique qui nous aide à nous défendre et à nous adapter à toutes sortes de changements dans notre entourage. Ce n'est pas une réaction d'adaptation spécifique, telle que par exemple le développement des muscles d'un athlète qui doit s'adapter au travail musculaire, mais c'est une réaction d'adaptation qui nous aide à ajuster notre corps à n'importe quel changement. En particulier, il nous aide à combattre ce que l'on appelle le stress.
Mais que signifie-t-il au juste dans votre théorie?
Le mot « stress » fut utilisé d'abord par les physiciens. Il signifie en physique l'interaction entre une force et la résistance contre cette force. Nous parlons par exemple du stress en rapport avec une tension ou une pression. Une tension ou une pression, ce n'est pas la force ni la résistance, mais l'interaction entre les deux. Ma théorie qui veut qu'il y ait un équivalent de ce stress dans le sens biologique. Chaque fois que notre système de défense, le système de défense du corps humain, s'oppose à des agents qui essayent de déranger son équilibre.
Explication d'Hans Selye, celui qu'on considère comme le père du stress, c'est à notre radio le 26 février 1951. Le terme était relativement nouveau à l'époque. Pour en parler, mon invité, Sonia Lupien, professeure titulaire au département de psychiatrie de l'Université de Montréal, fondatrice et directrice du Centre d'études sur le stress humain, titulaire également de la chaire de recherche du Canada sur le stress et auteur de nombreux ouvrages, le dernier qui a pour titre d'ailleurs « Le stress au travail versus le stress du travail ». C'est publié aux éditions Va savoir. Bonjour. Bonjour, merci d'être là.
Merci de m'inviter.
Est-ce que la définition qu'en donne Selye, qu'on vient d'entendre, nous semble toujours pertinente de nos jours?
À la moitié, en fait.
À moitié.
Parce que ce que Selye disait, c'est que le stress, en fait, c'est la réponse spécifique du corps à toutes sortes de conditions qui sont non spécifiques. Alors lui, ce qu'il disait, c'est que peu importe ce qui va nous attaquer, on va produire une réponse de stress. On verra à travers l'histoire du stress qu'à mi-chemin, on s'est rendu compte que c'est pas vrai, que c'est n'importe quoi, qu'il peut y avoir des choses très particulières qui vont activer la réponse de stress. Mm-hmm. Et c'est la petite modification importante là, que les chercheurs plus contemporains ont apportée.
Oui. Alors, parlons de lui, un peu connu du grand public et pourtant extrêmement important. Je l'ai présenté un peu comme le père, entre guillemets, du stress. C'est qui, Hans Selye?
Hans Selye, c'était un médecin hongrois qui a émigré au Canada au milieu des années 30, enfin. Et ce qui est intéressant avec Selye, vous savez qu'il a été nommé 17 fois pour un prix Nobel, ne l'a jamais reçu.
Ah oui, 17 fois?
Et ce qu'on dit entre les lignes, c'est que Hans Selye faisait ce qui n'était pas très à la mode dans le temps, faisait beaucoup de transferts de connaissances. Et donc, quand il a décrit le stress, il s'est mis à donner des conférences publiques pour monsieur et madame. C'était très mal vu dans le milieu scientifique et ce serait une des raisons pourquoi il n'a jamais reçu le prix Nobel à ce moment-là de l'histoire, bien sûr.
Ah oui, trop grand public, hein?
Oui.
Donc, établi chez nous, à Montréal, au début, il ne parlait pas du stress, il parlait du syndrome de l'air malade. C'était quoi ça?
Oui, c'est une belle histoire, ça, que de se lier. Donc, quand il est arrivé ici, il est encore résident en médecine. Quand vous êtes résident en médecine, vous suivez le patron, le médecin, mm-hmm. et vous allez voir différents patients qui souffrent de toutes sortes de maladies pour être capable de reconnaître les symptômes. Par exemple, si vous voyez un malade qui a une jaunisse, bien, il a l'air jaune. Oui. Quelqu'un qui a un problème de cœur, il va avoir le souffle un petit peu haletant, etc. Et donc, bien, le Sellier, dans sa autobiographie, il raconte que ça l'ennuyait beaucoup. Il trouvait ça très, très ennuyant. Mais ce qui le fascinait était la chose suivante, c'était que peu importe ce dont les gens souffraient, que ce soit une jaunisse, une maladie cardiaque, etc., ils avaient tous le même air. Ils avaient l'air malades. Et c'est ça qui le fascinait. Il disait, il y a quelque chose qui atteint le corps, la maladie, quelle qu'elle soit, d'où l'agent non spécifique, mm-hmm. qui va atteindre le corps, n'importe quelle maladie. Puis la réponse du corps, c'est notre air malade. Ça y était resté ça en tête. Il va mettre ça de côté à un moment donné. Il va y revenir plus tard dans sa carrière. Mais c'est vraiment le premier syndrome qu'il a décrit qui n'était pas vraiment clinique ni scientifique. Mais c'est la chose qui l'avait le plus étonné.
Oui. Est-ce que c'est lui qui invente le mot? Stress?
Oui, c'est lui. On dit, il l'a emprunté à la physique, il l'a emprunté aussi aux ingénieurs. Hein. Vous savez qu'on peut stresser un métal jusqu'à ce qu'il brise comme du verre.
Ah oui.
Et donc, il va emprunter ce terme-là. Et c'est
intéressant,
devenu...
oui.
Les
oui.
gens sont devenus stressés le lendemain.
Oui. Bien, évidemment, il n'y a pas que lui, parce que justement, d'autres l'ont observé, j'imagine. Avant, on en disait quoi du stress avant, au 17e, au 18e, au
16e? Très peu de choses. On ne parlait pas vraiment de ça. On parlait des nerfs. Hein. On avait une maladie des nerfs. Donc, c'était des maladies nerveuses qu'on avait dans le temps. Sellier, vraiment, ça a été vraiment le premier avec son. En fait, il l'a appelé le syndrome d'adaptation générale, c'est-à-dire qu'il a mesuré qu'est-ce qui arrivait quand on était stressé. Il a fait ça, bien sûr, chez des animaux, chez des rats. Et donc, la première chose, on va avoir une réaction d'alarme. Donc, le corps va se mobiliser. Et ensuite, bien, il va commencer à avoir un peu de fatigue, d'où cet air malade. Et ce qu'il appelait en anglais l'exhaustion, l'épuisement, où vraiment, soit il est mort, il va y avoir des maladies qui vont se développer.
Burnout ou dépression, puis bon, il y en a d'autres. Mais la recherche, on peut dire qu'elle s'est grandement amplifiée au lendemain des deux guerres mondiales. La première, d'abord 14-18, puis de façon plus importante en 39-45. Qu'est-ce qu'on cherchait à comprendre à ce moment-là?
Bien, on avait plein de soldats qui arrivaient des guerres avec des chocs traumatiques. Alors, dans le temps, on n'appelait pas ça un syndrome d'origine post-traumatique, mais on se rendait bien compte que les soldats n'allaient pas très bien, puis on se demandait qu'est-ce qui s'était passé, parce que, bon, ils étaient revenus vivants, ils devraient être corrects. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, ce qu'on va voir, c'est une grande, grande immigration des chercheurs européens qui cherchent à sortir de cette guerre en Europe. Donc, Montréal va devenir la plaque tournante de la recherche sur le stress. Même encore aujourd'hui, les meilleurs chercheurs au monde, je vous dirais, je mets exclu de ça, ce sont les Canadiens et les Allemands. Mais revenons donc à Sellier. Il cherche à comprendre c'est quoi qui va avoir donné l'air malade, justement, c'est chez Jean-là, avec toute sa gang là, qui est arrivée de l'Europe après les guerres. Et donc, ce qu'on faisait dans ce temps-là, c'était le moment où on cherchait des hormones. On savait qu'il y avait des hormones qui existaient, mais on ne savait pas comment les trouver. C'est-à-dire, on savait qu'il y avait des substances qui pouvaient modifier le comportement, le corps, tout ça. Ce qu'on faisait, on prenait n'importe quelle glande, parce qu'une hormone, c'est produit par une glande. Mm-hmm. On faisait une petite poudre avec ça et on injectait ça puis on regardait ce que ça faisait. Et Sellier va décider de prendre les ovaires. C'est assez facile à aller chercher. Fait sécher ça, met ça en petite poudre et administrait ça à des animaux. Et il se rendait compte qu'à chaque fois qu'il administrait des extraits d'ovaires, il y avait toujours la même réponse, c'est-à-dire une atrophie du thymus, qui est une petite glande là, qu'on a dans le cou, avec une augmentation des glandes surrénales, ces deux petites glandes qu'on a au-dessus des reins, avec des ulcères d'estomac. Et donc, il s'est dit, mon Dieu, il arrive quelque chose. Peut-être que l'hormone qu'il y a dans l'ovaire qui crée ces maladies-là. Et il a la brillante idée de dire, pour être sûr que c'est l'hormone qu'il y a dans l'ovaire, je vais donner des extraits de d'autres glandes. Alors, il va prendre d'autres glandes dans le corps, va faire une petite poudre, va administrer ça, il va se rendre compte qu'il a les mêmes effets. Alors là, il commence à être déprimé parce qu'il dit, c'est pas quelque chose qu'il y a dans le verre qui crée ça.
Oui.
Peu importe, c'est ça la réponse non spécifique, peu importe ce que j'administre, j'ai toujours la même réaction du corps, c'est-à-dire une atrophie du thymus, un élargissement des glandes surrénales. Et là, il commence à se dire, ça doit être ma méthode qui est pas bonne. Je veux dire, c'est sale ce que je produis, etc. Et il a la brillante idée de dire, je vais administrer quelque chose qui n'est pas un extrait de glande. Mm-hmm. Et donc, sur son étagère, il y avait ce qu'on appelle la formaline. C'est une substance qu'on utilise au microscope. Il dit, je vais leur administrer ça. Et il administre la formaline à ses rats et il observe encore une fois le même effet. Et quand on lit l'autobiographie de Sellier, il raconte, c'est là qu'il a arrêté. Il dit, il y a quelque chose de sale dans mon expérience. Ça n'a pas de sens, mon affaire. Laisse tomber ça. Va y revenir plusieurs années plus tard. Et il va y revenir en marchant un matin puis en se rappelant cet air malade-là. Puis, attends une minute, ça ressemble à mon histoire, là, que peu importe ce dont le patient souffre, jaunisse, trouble cardiaque, ils ont toujours le même air. Mais ça ressemble à ce que je suis en train de vivre, c'est-à-dire peu importe ce que j'administre, mes rats ont toujours les mêmes conditions. Donc, est-ce que je suis en train de mesurer la même chose? Et c'est là qu'il va poursuivre ses recherches et qu'il va finir par découvrir que ce qu'il voit, c'est la réponse du corps, la réponse de stress à n'importe quelle attaque sur le corps.
Mais là, on est beaucoup dans la biologie, oui. Non? C'est oui. Comme si on excluait la psychologie.
Ah, la beauté avec l'étude sur le stress, comme dans beaucoup de domaines de recherche, c'est très, très en silo. Donc, on a vraiment l'école de la biologie. Donc, oui. dans le courant de l'histoire, tout le début, c'est toute la biologie. Deuxième guerre mondiale va arriver. Et là, on a encore plus de soldats qui débarquent avec des gros traumas. Et là, la bio commence à être moins à la mode. Là, c'est bien beau, là, tout ça. Et le gouvernement américain dit, bon, là, c'est correct, on n'a pas sorti grand-chose, on n'a pas encore de médicaments, fait qu'on va aller du côté des psychologues. Et donc, ils vont demander aux psychologues d'étudier le stress pour aider les soldats qui sont revenus. Et là, on va avoir l'autre école, hein, un autre silo, si vous voulez, l'école de la psychologie. Et les psychologues, qui ne sont pas très fervents de biologie, ben, vont développer des questionnaires. On dit, ben non, nous, on va mesurer le stress au moyen de questionnaires. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont développer des questionnaires avec l'idée que le chercheur va décider lui-même, c'est quoi qui devrait stresser les personnes? Puis ils vont poser des questions. Par exemple, avez-vous vécu un divorce dans le dernier mois? Avez-vous eu une maladie? Oui. Et plus vous en avez, bien, plus vous allez être stressé et plus vous allez être susceptible de tomber malade. Et on pensait être capable de détecter des gens comme ça. Écoutez, je pourrais remplir le studio ici avec tous les questionnaires sur le stress comme ça qui ont été développés. Et bien sûr, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas très bien. Une des raisons, c'est, en tant que chercheur, qui suis-je pour décider ce qui vous stresse? Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était pas si non spécifique que ça, là. Je vous donne un exemple. Une des questions, c'est « Avez-vous vécu un divorce dans le dernier mois? » Mais si vous avez jamais aimé votre partenaire de vie, vous n'êtes pas stressé, vous êtes heureux. Et donc, ça dépend des circonstances de chaque personne. On peut pas décider. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on va voir tomber un petit peu plus l'école de psychologie, mais qui va quand même rester jusque dans les années 70. Mm-hmm. Et là, quand les psychologues vont dire « Bon, les questionnaires, ça marche plus ou moins », on va chercher s'il n'y aurait pas un type de personnalité qui serait susceptible d'être très stressé. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait des chirurgiens cardiaques qui allaient voir les chercheurs en disant, nous, on a plein de gens qui font des infarctus, puis ils ont toujours un peu les mêmes genres de personnalités, très compétitifs, très arrogants. C'est souvent des directeurs de compagnie. Et donc, les chercheurs vont étudier ces gens-là, puis ils vont arriver avec ce qu'on appelle la personnalité de type A. Les gens qui sont très compétitifs, très hostiles, qui vont se battre pour arriver en haut de l'échelle, ce seraient ces gens qui seraient susceptibles de développer des troubles de stress. Et bien sûr, quelques années plus tard, on va montrer que ce n'est pas le cas.
Ah oui. Mais là, bon, c'est comme si les deux, la biologie et la psychologie, tout à coup, à partir de c'est quoi, c'est fin des années 60, début des années 70, là, sont liés ou intimement liés à ce moment-là. Puis plus tard, on va parler d'agents stressants, les grands et les petits stress. On va écouter ce qu'on en disait justement à l'émission Femmes d'aujourd'hui. Francine Boucher, psychologue à l'Université de Montréal. Ça, c'était en mars 1980.
Deux auteurs, Ra et Holmes, ont fait une recherche où ils essayaient de voir les corrélations entre certains événements qui se produisaient couramment dans la vie des gens et puis les effets de stress sur l'organisme. Ils ont donné des cotes arbitraires à des changements avec une étude assez scientifique pour qu'on puisse accorder crédit aux résultats. Et finalement, on a trouvé que si une personne dépasse 300 points, il y a beaucoup de chances ou de risques de maladie. Or, le premier élément de l'échelle, c'est le divorce, séparation, deuil. Ces éléments-là, à eux seuls, peuvent provoquer un stress suffisant pour engendrer une maladie. Alors, c'est pas seulement une foule d'agents stressants, mais ça peut être un agent stressant intense. Et ça peut être aussi une petite foule d'agents stressants, ce qu'on appelle des micro-stresseurs, tellement petits qu'on ne les décèle pas, mais qui finalement produisent un stress intense.
Voilà, toutes sortes de stresseurs comme ça. Ça demeure valide, ça?
Mais non. Ça, c'est un exemple parfait de l'approche psychologique dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'on regarde le nombre de stresseurs, on détermine qu'est-ce qui est stressant à la place des gens, et on va dire, plus il y en a, pire c'est. Évidemment, non. Parce qu'il y a tellement de différences individuelles qu'on n'arrivait pas à rien prédire. Et donc, au début des années 70, c'est la rencontre des deux mondes. C'est toujours quand on est en interdisciplinarité qu'on comprend plus de choses. Et là, les biologistes ont commencé à parler aux psychologues en disant, bon, là, on va se jaser un peu parce que là, chacun de notre bord, ça ne fonctionne pas. Et ce n'est pas vrai que ce qu'on décide qui est stressant pour quelqu'un, il y a bien des gens qui ont tout vécu ça et ne sont pas stressés du tout. Et c'est l'approche qui est arrivée. Moi, mon domaine de recherche aujourd'hui, ça s'appelle la psychoneuro-endocrinologie, c'est un grand mot. Mm-hmm. C'est la rencontre de la neuroscience, de la psychologie et de l'endocrinologie. Et les chercheurs se sont dit, vous placez deux personnes devant une même situation, un divorce par exemple. Oui, Il y en a un qui est stressé, qui va produire une réponse biologique de stress à la cellier, puis pas l'autre. Et c'était ça le problème auquel on faisait face. Et donc, on ne pouvait pas décrire les stresseurs. Jusqu'au jour où des chercheurs un petit peu plus allumés ont dit, OK, c'est beau. Mais il doit quand même y avoir des caractéristiques d'une situation. qui vont faire que peu importe qui vous êtes, où vous êtes, l'âge que vous avez, vous allez stresser. Et donc, ils ont arrêté de parler des stresseurs, mais ils ont cherché des caractéristiques. À mon avis, c'est une des plus grandes découvertes après celle de Sellier. Et ils ont montré qu'il y a 4 caractéristiques qui vont faire que peu importe qui vous êtes, où vous êtes, vous allez stresser, vous allez produire la réponse biologique de stress qui, elle, à la longue, va mener à des désordres. Et c'est, bon, les caractéristiques, j'utilise toujours l'acronyme CINÉ pour en parler, ils sont additifs, c'est-à-dire que la situation ne doit pas nécessairement comporter les 4 caractéristiques pour que vous ayez une réponse de stress. Plus il y en a, pire c'est. Mm-hmm. Et donc, pour que vous ayez une réponse de stress, vous devez avoir l'impression, c'est important ça, que vous n'avez pas le contrôle sur la situation. La situation doit être imprévue ou imprévisible. Elle doit être nouvelle et votre ego, votre personnalité doit se sentir menacée. Par exemple, quelqu'un qui remet en question votre capacité de bien faire votre travail à machine à café quand vous allez à la salle de bain, là, ben, le petit feeling que vous avez, là, mm-hmm. c'est oui. ça une réponse de stress. Et là, aujourd'hui, ce qu'on fait en psycho-neuro-endocrinologie, on prend ces 4 caractéristiques-là, on expose des gens à ces caractéristiques-là, on mesure les hormones de stress et là, on voit que quand on les expose à des caractéristiques comme ça, on est capable de générer une réponse de stress. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en même moment, en 1970, les chercheurs ont montré que ces bons jours d'hormones de stress-là, mm-hmm. qui avaient été décrites par Sellier, à l'intérieur d'une période de 10 minutes, quand ils sont produites, elles retournent au cerveau. On n'aurait jamais pensé que des hormones, ça montait au cerveau, mais oui. Et ils ont montré que quand elles remontent au cerveau, ces hormones de stress-là ont une préférence marquée pour les régions du cerveau qui sont impliquées dans l'apprentissage, la mémoire et dans les émotions. Et là, on a commencé à voir comment l'exposition chronique à du ciné mène le corps à produire beaucoup, beaucoup d'hormones de stress qui vont remonter au cerveau et modifier la façon dont on pense, un peu comme on le disait dans l'extrait tantôt, oui. et peut-être mener au développement de ces maladies-là.
Ah oui, ben, l'usure du corps, les maladies qui vont se développer. On voit aussi, à partir des années 70, intégrer les femmes dans la recherche hein, de plus en plus, parce que hommes et femmes ne réagissent pas toujours de la même façon au stress. Ça aussi, on l'observe.
Non, en fait, c'est pas dans les années 70, c'est en 2000.
En 2000? Ah oui.
Avant, l'an 2000, moi, j'ai commencé en 93 dans ce domaine-là. On testait pas les femmes. Non, on testait juste des hommes. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, des femmes. Des femmes, ça a un cycle menstruel. Et les bons jours d'hormones sexuelles des femmes, oui. qui varient dans le mois, ça a des impacts sur les hormones de stress. Fait que c'est difficile à contrôler. Alors, on éliminait les femmes, tout simplement, et on testait des hommes. Et on allait généraliser les résultats aux femmes. Jusqu'au début des années 2000, les grands organismes subventionnaires, avec raison, ont dit non. Là, quand même, là, ces femmes-là payent aussi des impôts. Ça serait le fun qu'il y ait un retour sur l'investissement. Et on nous a obligés à maintenant tester les femmes. Et là, ça a ouvert tout un nouveau domaine d'études. Parce qu'en testant des femmes, on s'est rendu compte que, par exemple, les femmes ne réagissaient pas au stress de la même manière à travers leur cycle menstruel. On a compris certaines des différences qu'on a avec la dépression, le stress, etc. Et donc, ça fait une vingtaine d'années, pas plus, que les femmes sont incluses. Il était temps, plus que
oui,
temps.
Ben, oui, c'est grandement étonnant. D'autant plus que la réalité n'est pas toujours la même. En tout cas, n'était pas toujours la même. Un exemple ici, le quotidien des mères au foyer dans les années 70, début 80. Témoignage à la caméra de Télémag, décembre 80.
Qu'est-ce que vous trouvez le plus stressant dans le travail de la femme à la maison?
Ce que je trouve stressant, c'est d'avoir souvent seule à assumer les préoccupations, la responsabilité des enfants. Qu'il y ait un conjoint ou pas, quand la personne qui reste à la maison, c'est difficile pour elle parce qu'elle a pensé à tout. Un enfant doit aller chez le dentiste ou l'autre arrive en pleurant de l'école parce que ça n'a pas bien été avec le professeur. Un autre a besoin de souliers. Finalement, au bout de la semaine ou même au bout de la journée, on a la tête bien grosse de penser à tout ça. Une autre chose aussi que je trouve difficile, c'est d'avoir l'impression qu'on n'arrive pas à penser ou à réfléchir. Ça m'est déjà arrivé de réaliser que j'étais très agressive avec un de mes enfants, puis je me demandais pourquoi, puis c'est que je pensais à quelque chose ou je réfléchissais, je me souviens pas à quoi, puis l'enfant était toujours en train de m'interpeller. Puis à un moment donné, je suis devenue très agressive, puis j'ai réalisé que c'était pour ça, j'arrivais pas. J'ai dit, ça n'a pas de sens, j'arrive plus à penser même. Ça, c'est difficile aussi.
Témoignage en décembre 1980. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on parlerait à la fois de charge mentale puis de résonance du stress.
C'est une des plus beaux, une des plus belles descriptions de stress que j'ai entendues dans ma carrière. Cette femme, elle avait bien, mon Dieu, oui. Oui, bien, ce qu'elle décrit, en fait, c'est ce qui a été décrit en 2015 par des chercheurs allemands, évidemment, ce qu'on appelle la résonance de stress. Moi, en 2001, j'avais montré pour la première fois les effets de débordement du stress parental sur les enfants, ce qu'elle décrit. J'avais montré que plus papa et maman est stressés, plus son propre enfant produit des hormones de stress. Je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais voyons donc. Et les Allemands sont arrivés avec la réponse, la résonance de stress. Je vous décris rapidement. Si je vous amène dans mon labo, je vous stresse, puis je mesure les hormones de stress, elles vont augmenter. C'est normal.
Oui, ah oui.
Maintenant, si je vous amène dans mon labo, puis je vous stresse, mm-hmm. et j'amène un de vos collègues au labo, puis je lui dis, vous êtes correct. Vous allez juste observer l'autre personne être stressée. Mais j'ai la brillante idée de mesurer les hormones de stress de l'observateur qui vous observe. Elles vont augmenter en même temps que les vôtres. Pourquoi? Parce que vous allez raisonner. Et les chercheurs ont montré que plus il y a un lien entre les deux personnes, parents-enfants, comme la dame ici, mm-hmm. conjoint-conjointe, plus il y a résonance de stress. Je suis sûre que c'est déjà arrivé à vos auditeurs. Vous êtes super de bonne humeur. Vous arrivez dans un meeting où il y en a un très, très, très stressé, puis vous sortez de là les dents barrées oui, parce oui, que oui. vous ne comprenez pas pourquoi.
Oui,
vous venez
plombé,
de vivre un effet de débordement ou de résonance. On comprend peu le phénomène.
Ouais.
C'est le gros sujet de recherche actuellement. Et le gros sujet de recherche chez les animaux pour savoir est-ce que quand on est devant quelqu'un qui n'est pas stressé, zen, zen, zen,
ah ben oui,
est-ce que
l'inverse.
Ça peut nous déstresser? Ouais. Semble-t-il chez les animaux que c'est possible? Alors, on continue
bon.
Et on va essayer de mettre ça chez les humains dans quelques années.
Bien, sûrement. Bien, se déstresser parce que, oui, il y a toutes sortes de moyens pour réduire le stress. Puis il y a toute une industrie qui s'est développée autour de ça, hein, le fameux bien-être. Et ça, c'est pas nouveau, ça date pas d'hier. Tiens, un exemple dans les archives de l'INA en France, en 1956.
Les études sont accablantes et on l'a dit et répété, les étudiants et les programmes sont beaucoup trop chargés, surmenage. Sportifs qui vous surentraînez. Hommes d'affaires accablés de préoccupations, surmenage. Mari qui n'avait même plus la force de faire le soir la lecture à votre épouse, surmenage. Surmené de tous âges, il existe aujourd'hui à Paris un centre d'oxygéno-relaxation où un séjour de 3 quarts d'heure vous fera l'effet de 3 jours passés à la montagne. Tout d'abord, vos muscles crispés se détendront sous la caresse du vibromasseur. Puis, sous une tente translucide, baignant dans une atmosphère suroxygénée, vous respirerez l'air des cimes. Enfin, le paysage de vos rêves vous procurera dans le même temps le dépaysement nécessaire à votre relaxation psychique. Et vous vous sentirez devenir un autre homme. Votre vitalité retrouvée fera de vous cet athlète qu'aucune difficulté ne fait hésiter.
Bon, c'est en 1956, on comprend que c'est trop beau pour être vrai. Hein? Il y a beaucoup de sexisme là-dedans également, mais ouais, on réduit pas le stress comme ça en 15 minutes d'oxygénation.
Oui, puis on en a encore des choses comme ça. Je dis toujours aux gens, quand les gens viennent me voir, ils disent, mais madame Lupien, telle affaire, là, c'est pareil que ça fait des... C'est fou, puis je leur réponds toujours, pensez-y 2 minutes, là. Si c'était si spectaculaire, les chercheurs là, au monde, là, on connaît ce domaine de littérature là, par cœur. Si c'était si spectaculaire, puis on pouvait traiter le stress ou la dépression avec une table électrique à quelque chose, là, pensez pas qu'on aurait déjà gagné le prix Nobel, puis ça aurait paru dans tous les journaux à travers le monde. Je veux dire, pensez-y, on le saurait.
En tout cas, on voit que la science, oui, évolue quand même, à la vitesse grand V. On comprend mieux le stress depuis les pauvres soldats qui revenaient de 14-18 ans. Sonia Lupien, professeure titulaire au département de psychiatrie de l'Université de Montréal, entre autres. Et elle a publié de nombreux ouvrages sur le sujet. Le dernier qui a pour titre « Le stress au travail versus le stress du travail ». C'est paru aux éditions Va savoir. Merci beaucoup pour votre visite.
C'est moi qui vous remercie.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Maxime Coutier là-dessus. Bonne soirée. À une prochaine. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.